Bonsoir à tous. C'est avec beaucoup de joie que je suis ici avec vous sur Toulouse depuis maintenant une semaine et demie, presque deux semaines. On est bien installé avec mon épouse et c'est avec beaucoup de bonheur que ce soir je vais partager la parole du Seigneur avec vous. Et je vous invite pour cela, sans plus tarder, à prendre votre Bible et à ouvrir dans Actes chapitre 16, on va lire du verset 9, à partir du verset 9 du moins. Actes 16, verset 9. Il est écrit: pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut. Il lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous y appelait à annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. On va ensemble au verset 16. Il est écrit: « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand bien à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on eut chargé de coups, on les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent: « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé lui et tous les siens. Amen. Amen. Voilà, c'est un passage qu'on connaît peut-être pour la plupart assez bien. C'est un passage qu'on aime lire. C'est un passage, en tout cas, qui ce soir m'a interpellé. Je pense qu'il va en interpeller peut-être plus d'un, parce que c'est un contexte particulier, parce que on voit vraiment une direction de Dieu pour Paul, pour Silas, pour ces personnes qui étaient sensibles à l'Esprit de Dieu. On voit que ces chrétiens, on pourrait dire ces chrétiens modernes, avaient envie de faire la volonté de leur Dieu et ils ont voulu aller dans telle et telle direction, mais en tout cas, Dieu ne l'a pas permis. Et pour eux, il y avait cette direction qui était là, face à eux, cette direction qui s'ouvrait, c'était la Macédoine. Et pour eux, ça a été un signe clair, une évidence, un Macédonien qui est là, qui apparaît en songe: secours-nous, viens nous aider. Et ils se sont empressés de répondre à cette demande, en voyant là la main de Dieu, la pensée de Dieu. Et on pourrait penser que pour eux, ça allait être un chemin qui était là, on pourrait dire tranquille, mais en tout cas, je me mets un petit peu à leur place et on se dit, mais voilà, ils pensaient peut-être que ça allait être le réveil pour eux. On pourrait penser que si Dieu leur demande d'aller dans un endroit, il y a là des foules qui les attendent, il y a là des miracles qui sont préparés de la part de Dieu pour attester la parole. On pourrait dire, mais peut-être que Dieu a même préparé un tapis rouge pour que lorsqu'ils arrivent en Macédoine, lorsqu'ils arrivent à Philippe, tout se passe bien pour eux, il y ait des centaines et des centaines de personnes, sauf que ça ne se passe pas comme ça. Sauf qu'il y a, il n'y a pas de grande foule. On ne l'a pas lu, mais il y a une femme, Lydie, qui va là, qui va s'approcher, qui va les prendre chez eux. Il y a là une conversion. Il y a là une personne qui s'attache au Seigneur, mais sans plus, sans plus. Et en dehors de cela, il y a vraiment cette femme qui va les suivre, qui va être animée d'un mauvais esprit, et Paul va être là, va s'interposer, et l'esprit va être chassé. Et ce qui va vraiment nous intéresser, et on va s'y attarder pendant quelques instants, c'est la réaction de ces personnes. Parce que voyez-vous, ces personnes qui étaient là, qui avaient pris cette femme à leur service parce qu'elle leur rapportait de grands biens, parce qu'elle leur rapportait de l'argent, du jour au lendemain, elle va être délivrée de ce démon, il n'y aura plus de profit pour ces personnes, et ces personnes vont avoir une rébellion en eux. Ils vont dire, mais voilà, ces hommes-là, ils vont les traîner devant les tribunaux, ils vont dire, mais ces hommes-là annoncent des coutumes. On pourrait dire, mais ces hommes-là sont en train d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ces hommes-là sont en train de parler de Jésus-Christ et pour nous, on ne peut pas le recevoir, on ne peut pas les suivre, on ne peut pas suivre cette coutume parce qu'on est romain. On ne peut pas. Et c'est là une erreur grave. C'est là une réaction qui montre l'état de cœur, l'état d'esprit dans lequel étaient ces personnes. Et cela montre finalement l'état du cœur humain, l'état d'un cœur humain qui se dit « mais moi je suis attaché au profit, je suis attaché à ma vie, je suis attaché aux choses qui sont là autour de moi ». Je suis attaché, on pourrait dire, à mon confort. Je me suis créé un espace de vie qui est bien, qui est tranquille, si je puis dire. Et lorsque quelque chose vient un peu bousculer cet espace, cet environnement, il y a là comme le cœur humain qui se révèle. Hein, vous savez, lorsque tout va bien, on voit des personnes qui sont là, qui affichent toujours un beau sourire. Et lorsque leur vie est bien tranquille, ce sourire est toujours là. Mais dès qu'il y a une situation qui vient de contrarier leur cœur, leur âme, lorsqu'il y a des difficultés au travail ou dans la vie de famille, quelquefois le caractère sort, le fond de l'être humain ressort dans ces moments-là. Et ces personnes vont dire, mais ce qu'ils annoncent, en quelque sorte, je paraphrase un petit peu ce soir, excusez-moi, ils vont dire, mais ce qu'ils annoncent, on n'en veut pas. On n'en veut pas, on ne peut pas recevoir cela. On ne peut pas suivre, on ne veut pas suivre, nous qui sommes romains. Et c'est là une erreur, je le disais, parce que ce n'est pas vrai, parce qu'on peut le lire dans la parole de Dieu. Il y a déjà eu auparavant un centenier romain qui est venu trouver Jésus-Christ parce que son fils, son serviteur, pardon, était malade. Un centenier qui était là, qui avait un poste haut placé, qui était romain, est venu trouver Jésus-Christ en lui disant « Mais voilà, mon serviteur bien-aimé est en train de partir ». Ça se trouve dans Luc chapitre 7, mon serviteur est en train de partir, fais quelque chose, fais quelque chose. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il allait venir dans ce monde pour faire une catégorie des personnes, des êtres humains. Il n'a jamais dit qu'il venait dans ce monde seulement pour les Juifs, seulement pour les Grecs, seulement pour telle et telle personne. Mais Jésus-Christ a toujours dit qu'il venait, et c'est là le message d'amour du Père, c'est là le message de l'Évangile, c'est là cette bonne nouvelle, c'est ce que Paul et Silas voulaient communiquer à toute la Macédoine, à Philippe. C'est ce message qui dit que Jésus-Christ est venu sans faire attention à notre arrière-plan, notre éducation, ce qui a été dans nos vies. Mais Jésus-Christ est venu simplement pour nous offrir le pardon des péchés. Et l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de penser que l'Évangile, c'est seulement pour les autres. L'erreur qu'on pourrait faire ce soir, c'est de se dire, mais après tout, j'ai eu une autre éducation. J'ai eu d'autres pensées. Je n'ai pas été éduqué selon la parole de Dieu, la Bible. Je ne connais pas du tout ça. J'ai eu d'autres choses qui sont venues combler mon âme, mon cœur. Alors l'Évangile, on pourrait avoir cette même réaction. Je ne peux pas le recevoir. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, je ne peux pas le recevoir, je ne peux pas le suivre. On pourrait réagir comme cela. On pourrait se dire, mais après tout, ça a l'air bien de loin. Ça a l'air bien de loin, la bénédiction, on pourrait dire dans notre langage, le bien que Dieu veut nous faire, c'est bon pour les autres. Mais pour moi, non. Pour moi, c'en est trop. Mais pour moi, ça ne me concerne pas. Et c'est ce que disaient ces hommes. C'est ce que voulait transparaître leur comportement en disant, mais ils nous ont fait perdre de l'argent. On n'accepte pas l'Évangile. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a ce texte qui est écrit, on le connaît tous parfaitement. Il est écrit, mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, si vous entendez la bonne nouvelle, s'il y a là des chrétiens qui vous rendent témoignage, s'il y a là un prédicateur qui parle, s'il y a là, on pourrait dire, des dizaines de Paul, des dizaines de Silas qui sont en train de parler de ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie, mais n'endurcissez pas votre cœur. Ne fermez pas votre cœur, ne pensez pas que c'est seulement pour les autres, ne pensez pas que parce que vous avez un arrière-plan, un autre arrière-plan religieux, même si je n'aime pas employer ce mot religieux, puisque Jésus-Christ n'est pas venu pour apporter une religion, mais Jésus-Christ est venu pour apporter une relation d'intimité, une relation de cœur à cœur, une relation où il n'y a pas d'asymétrie, il n'est pas venu pour nous regarder de haut, en nous pointant du doigt, en nous disant « mais voilà ce que tu as fait dans ta vie, voilà ce que tu as fait de mal, voilà ce que tu as fait, voilà cette période de ta vie. » Jésus-Christ n'est jamais venu pour ça. Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. Alors si aujourd'hui, si le message de l'Évangile est annoncé, si on a la pensée de Jésus qui vient dans notre cœur, si le Saint-Esprit, on pourrait dire, vient pointer quelques éléments dans notre cœur, dans notre vie, on ne veut pas fermer notre cœur. On ne veut pas avoir le même comportement que ces hommes ont eu parce qu'ils ont fermé leur cœur, ils ont fermé leur vie à l'impact de l'Évangile pour eux. Ces hommes-là, peut-être qu'ils ne s'en rendaient même pas compte. Ils étaient fixés seulement sur ce qui se passait pour eux. Ils étaient fixés seulement sur leur perte financière. On pourrait dire comme ça aujourd'hui. Ils étaient fixés seulement sur l'argent qu'ils ont perdu en bourse ou l'argent qu'ils ont perdu ceci ou cela, les difficultés qu'ils ont. Et ils n'ont pas prêté attention à ce beau message qui leur était annoncé. Ils n'ont pas prêté attention à cela. Et ça a eu sûrement, puisque la Bible ne rentre pas dans les détails, mais ça a eu sûrement des conséquences dramatiques pour leur vie. Aujourd'hui, si on entend sa voix, si Dieu nous parle, si Dieu nous montre, si Dieu veut nous amener plus loin, aujourd'hui, si Dieu veut nous amener à capituler, à baisser les bras et à dire « Seigneur, je veux écouter ta voix ». Comme on l'a chanté, je sais que tu es le bon berger. D'ailleurs, c'est écrit dans Jean 10, et je l'avais noté en plus, et je bénis Dieu pour les chants, parce que ça prépare vraiment les cœurs. Et on pourrait se dire, mais ces hommes-là n'ont pas voulu recevoir Jésus-Christ. Ces hommes-là ont rejeté, ils ont dit, non, ce n'est pas pour nous. Et le message que Jésus-Christ est venu annoncer, c'est qu'il est venu simplement pour dire, mais moi je suis venu pour me donner. Je suis venu pour me donner. Et ce soir, on ne veut pas rejeter ce que Jésus veut nous donner. On ne veut pas mettre au loin en disant « je ne veux pas de ce message, je ne veux pas de la parole de Dieu, je ne veux pas de ceci ou de cela qui concerne Jésus dans ma vie ». Vous savez, j'ai longtemps eu ce comportement-là dans ma vie, j'ai longtemps rejeté l'Évangile, alors que quelquefois on sait que c'est la vérité, mais on se dit toujours, mais le monde a peut-être d'autres choses à m'apporter, le monde est quelque part, il y a ceci ou cela que j'aimerais goûter, et on fait toujours ce constat amer que dans notre vie, on aurait aimé s'approcher du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, il est là, le constat est fait, ces personnes ont rejeté l'Évangile, Paul et Silas sont jetés en prison. Vous savez, maintes et maintes fois, la Bible l'appelle celui qui est venu, celui qui est le prince du mensonge. On dit c'est celui qui est venu pour nous tenter, celui qui était dès à l'origine dans la tentation, pour tenter les créatures, celui qui est venu pour biaiser la relation que Dieu a voulu instaurer avec l'homme. Il a toujours eu ce dessein de vouloir faire taire la parole de Dieu. Il a toujours voulu anéantir l'impact de la parole de Dieu dans notre vie. Et peut-être que ces hommes se sont dit, mais en mettant Paul et Silas en prison, on a réglé le problème. Cette bonne nouvelle qu'ils sont en train de propager, ce message qu'ils sont en train de donner, ce message qui est là, qui dit simplement, je dis simplement entre guillemets, parce que si c'est simple à dire pour nous, ça a coûté cher au roi des rois, à celui qui s'est fait homme sur terre pour pouvoir nous apporter le pardon de nos péchés. Ce message, c'est simplement pour dire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour que l'on puisse vivre et d'une vie abondance. Et ces hommes ont dit, mais finalement, lorsqu'ils vont être en prison, ça va être réglé. Simplement, on ne peut pas bloquer le message de l'Évangile parce que c'est un message de vie, c'est un message d'espoir, c'est un message qui va de au-delà de tout ce qu'on peut penser, imaginer. C'est un message d'amour qui transcende le temps, qui transcende les époques et qui est venu encore aujourd'hui parmi nous en 2014 parce que nous sommes sous le temps de la grâce, parce qu'il y a encore, cette possibilité pour une personne de se tourner vers Dieu. Il y a encore cette possibilité pour peut-être quelqu'un qui connaît Jésus-Christ. Vous savez, le message de la croix, et je le dis tellement souvent, mais parce que c'est une réalité qui est fondamentale pour nous. C'est une réalité que le message de la croix, ce n'est pas un message ponctuel, un message que l'on doit entendre uniquement pour notre conversion, et après quoi on met ça, le message de la croix, de côté, et on le réserve uniquement pour les réunions d'évangélisation. Mais le message de la croix est central. Central pour nous qui sommes chrétiens, parce que ça nous montre sans cesse la direction dans laquelle Dieu veut nous voir. Ça nous montre cette direction, ça nous sert de norme. À nous qui sommes chrétiens modernes, ça nous aide à pouvoir discerner ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu. Et c'est là le don parfait de Dieu, ce que Jésus-Christ a accompli. On ne peut pas le fermer, on ne peut pas le bloquer, on ne peut pas étouffer la parole de Dieu, parce que cette parole de Dieu donnera et a toujours donné la vie. La parole de Dieu a toujours donné la vie. Vous savez, il est écrit dans la Bible que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Dieu appelle à l'existence le bonheur pour toi dans ta vie. Même si tu ne le vois pas, en te confiant en Dieu, ça veut dire en priant, en ayant cette foi en cette bonne nouvelle, en voulant de ton propre gré dire « mais je veux le recevoir, je veux suivre », en ayant cette pleine conscience que dans ta vie, il y a seul Jésus-Christ qui puisse intervenir dans tel et tel domaine. Je ne vous connais pas, il y a sûrement des situations, lorsqu'on y réfléchit, on se dit « mais je n'ai pas de solution ». Il y a sûrement des situations dans lesquelles on est passé, au travers desquelles on est passé, on se dit « mais si Jésus-Christ n'avait pas pu intervenir à ce moment-là, s'il n'avait pas intervenu, je ne sais pas ce que je serais devenu ». Et c'est là le message de Jésus-Christ dans une continuité de vie. Ce n'est pas un message ponctuel, ce n'est pas une aide ponctuelle. Il a fait un sacrifice une fois qui a été suffisant et qui sera toujours suffisant tous les jours de notre existence. Jésus-Christ est là et il nous accompagne parce qu'il en a fait la promesse. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il sera avec nous, et je le dis souvent, et parce que c'est une réalité tellement concrète dans notre vie. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il sera avec nous qu'une seule journée, qu'une seule semaine dans l'année, qu'il sera avec nous qu'au début de notre conversion, après quoi il nous regarderait nous débrouiller. Mais Jésus-Christ a toujours fait cette promesse en disant « mais je vais vous accompagner, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Si on veut bien le recevoir, si on veut bien le suivre, si on veut mettre notre foi en action, si on n'essaye pas d'étouffer la parole de Dieu, mais si on l'accepte avec joie, alors il pourra intervenir, et même au-delà de ce qu'on peut imaginer. À un moment donné, il va y avoir un tremblement de terre, et je ne vais pas m'étendre sur cela, c'est plus le comportement du geôlier. Vous savez, il y a des personnes, et j'en ai un petit peu parlé, mais on voit vraiment ce qui se passe dans leur cœur lorsqu'il y arrive des choses qui sortent de l'ordinaire. Ce geôlier, il avait quand même une position importante pour l'époque, parce qu'il était là, il devait surveiller la prison, c'est lui qui avait le rôle, le service de pouvoir garder tous les prisonniers qui lui étaient confiés. Et on pourrait dire que cet homme avait une bonne place, un bon travail. Il avait un CDI, c'était pour lui tranquille. Il pouvait s'engager sur un crédit à long terme pour faire construire une maison. Il pouvait partir en vacances ou que sais-je encore. Vous comprenez que je paraphrase un petit peu, mais cet homme, a priori, lorsqu'on le voyait, tout était bien pour lui. Peut-être que même il s'était déjà confronté à cette réflexion et il s'était dit « Mais après tout, le message de l'Évangile, Jésus-Christ, je ne veux pas le recevoir, je ne veux pas le suivre parce que ma vie, elle va très bien. » Simplement, on le voit que finalement, au fond de son âme, il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. On voit qu'au fond de son âme, il y avait des difficultés parce que lorsqu'il va voir les portes ouvertes, après le tremblement de terre qui était là, une intervention divine, lorsqu'il va voir ses portes ouvertes, il ne va pas essayer de voir si les prisonniers étaient encore là. Il ne va pas essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Il ne va pas demander à son second, à ses serviteurs, de dire « Mais va vite, fais le tour de la prison, vois où sont nos prisonniers. » Le premier réflexe de cet homme, ça a été de dire « Je vais me tuer. C'est trop. » Cet homme... Pourtant, les autres devaient le regarder en disant « Mais qu'est-ce qu'il a une belle position ? Qu'est-ce qu'il a un bon travail ?» Peut-être que même ses serviteurs l'envient en disant « Mais j'aimerais être comme lui. J'aimerais, vous savez, on est dans un monde où on nous pousse à envier les autres, sans cesse. On nous montre et on nous explique qu'il faut envier, il faut avoir comme l'autre a, il faut avoir une grosse voiture parce que celui-là qui est connu a une grosse voiture, il faut avoir un métier où on gagne beaucoup d'argent et on est sans cesse poussé à cela et peut-être que même son environnement était là et l'enviait. Simplement, voilà, cet homme, il y avait eu une fracture dans sa vie. Parce que son premier réflexe, ça va être de dire « Mais je vais prendre mon épée et je vais me tuer. » C'est comme si là, c'était trop pour lui. C'était comme si là, il y avait ce que seule la parole de Dieu peut faire. C'est comme s'il y avait son cœur qui était révélé, qui était mis à nu. Et vous savez, la sensibilité de Dieu, c'est pas de nous enfoncer. Peut-être que le monde dira, mais prends ton épée, vas-y, fais-le. Peut-être que le monde ne trouvera même pas de solution en disant « Mais effectivement, dans ta vie, c'est tellement terrible ce qui se passe que c'est normal que tu penses à cela. » Peut-être que le monde peut même tendre l'épée en disant « Mais voilà, je vais t'aider de ce que je peux faire. » Mais la sensibilité de l'Évangile, la sensibilité de Jésus-Christ, son amour, c'est ce cri qui va sortir de la bouche de l'apôtre Paul. « Ne te fais pas mal. Ne te fais pas mal. » Et c'est là, si je puis dire, le message de la croix. Ce message où Jésus-Christ s'est donné comme pour dire « Mais je vais prendre cette condamnation, je vais prendre ton malaise, je vais prendre cette tristesse, je vais prendre cette fracture que le monde n'avait jamais vue. Je vais prendre ce malaise qui est en toi, que tu traînes depuis tellement longtemps, que ton entourage n'avait peut-être jamais vu, mais que le Seigneur lui a vu. » Et c'est comme si sur la croix, le Seigneur Jésus, alors qu'il a dit « Mais tout est accompli », c'est comme s'il disait, je paraphrase, mais comprenez bien ma pensée ce soir, c'est comme s'il disait « Mais j'ai tout accompli pour ta vie, ne te fais pas mal, ne te fais pas mal ». Et c'est ce qui va sortir de la bouche de l'apôtre Paul, comme pour venir confirmer le message de l'Évangile, comme pour venir rappeler le sacrifice de Jésus-Christ. Il y a ce texte auquel j'ai pensé, et je vais le lire pour vous, si vous le voulez bien, c'est dans Isaïe 43. Et si vous le voulez bien, on aurait pu l'intercaler entre ce que va dire l'apôtre Paul et la réaction après du geôlier. Il est écrit ainsi par l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, mais on pourrait dire ainsi par l'Éternel qui t'a créé, geôlier, celui qui t'a formé, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. On pourrait dire, si tu penses que tes prisonniers sont partis, ne t'inquiète pas, ils sont encore là. On pourrait dire, mais s'il y a des difficultés dans ta vie qui semblent être comme des fleuves, comme des eaux, ne t'inquiète pas parce que je suis là, pourra te dire le Seigneur. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. C'est là le message, le message d'amour du Père, c'est là le cœur du Père qui a donné son Fils Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. C'est là ce message, et c'est ce même message que Paul, que Silas et tant d'autres ont pu annoncer. C'est ce message que les autres hommes ont dit, mais on ne veut pas le recevoir. Mais peut-être que c'est ce message que ce soir tu as besoin de recevoir toi. Peut-être que c'est ce message que tu as besoin de dire, mais oui, je veux suivre. Peut-être que c'est ce message que tu as besoin de recevoir. Parce que le monde peut-être veut te faire croire que tu n'as pas de prix. Peut-être que le monde veut te faire croire que tu ne vaux rien, excusez-moi l'expression, que tu n'auras pas d'avenir, que de ta vie tu ne pourras rien faire. Peut-être que même tes parents ou des personnes proches ont eu ces paroles à ton égard en disant mais tu as un bon à rien, mais ça ne sert à rien ce que tu fais parce que dans ta vie tu seras toujours là sans perspective. Mais le message de Jésus-Christ, ce pourquoi Jésus-Christ s'est donné, c'est ce message qui dit « mais tu as du prix à mes yeux ». C'est ce message qui dit « ne te fais pas mal, ne te fais pas mal parce que j'ai payé pour cela, ne te fais pas mal ». Et je pensais à cela et je vais vous livrer ma pensée et au risque de passer à côté, vous savez, c'est là le flou, mais peut-être qu'il y a même une personne qui a pensé au suicide et qui là, parmi nous, a eu cette pensée de dire « mais la seule solution, c'est le suicide. La seule solution dans ma vie, c'est de mettre fin à mes jours. » Il y a cette phrase qui doit retentir et je prie le Seigneur qu'elle soit scellée par le Saint-Esprit. « Ne te fais pas mal, ne te fais point mal, parce que tu as des prix aux yeux de l'Éternel, aux yeux de Jésus-Christ. » Et là, le geôlier, il va y avoir quelque chose qui se passe dans sa vie. Ces geôliers, et vraiment, j'ai essayé de comprendre quelle était sa vie, ce geôlier qui était là, les prisons, les cellules étaient son quotidien. Cet homme qui croisait souvent, il a dû croiser des dizaines de prisonniers, cet homme qui était habitué aux cellules, cet homme qui est là, qui avait peut-être et même sûrement l'habitude de donner des ordres, cet homme qui commandait, cet homme qui était là, il va dire, mais maintenant j'ai besoin de lumière. Maintenant j'ai besoin de lumière. Parce que sa première réaction, ça a été de chercher la mort. Et une fois qu'il a eu cette parole de Dieu, une fois qu'il a saisi, une fois qu'il s'est passé quelque chose, une fois que Jésus-Christ est venu, une fois que Jésus-Christ va venir dans ta vie, il va y avoir cette lumière qui va t'être accordée. C'est au verset 29, il est écrit « Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse ?» pour être sauvé. Cet homme peut-être avait l'habitude de prendre une torche, mais c'est comme si là, dans sa vie, il mettait tout en règle. C'est comme si là, il confessait publiquement qu'il avait beau avoir pris des lumières de ce monde, il n'a jamais pu être éclairé comme il devait. Cet homme qui peut-être auparavant avait l'habitude de prendre des dizaines et des dizaines de torches a pu dire « mais maintenant, voilà, c'est maintenant, j'ai besoin de la lumière de Christ, j'ai besoin de la lumière » de l'Évangile. Et il va y avoir, et c'est cela qui va ouvrir son cœur, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» La Bible nous dit, c'est dans Actes, et on en a même fait un chant, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, Acte 4, verset 12, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est là cette rencontre, c'est là ce qui a bouleversé, changé la vie de ce geôlier. Sa vie, qui était une personne peut-être dépressive ou que sais-je, sa vie a été complètement restaurée. Il va laver les blessures de Paul et de Silas. sa vie va être complètement bouleversée. Lui qui avait l'habitude d'être peut-être lavé, essuyé par ses serviteurs, ces personnes qui étaient là à son service, peut-être qu'il avait l'habitude de dire à ses serviteurs, nettoyez les plaies des uns et des autres, cet homme va s'humilier, va s'abaisser, parce que la foi, c'est une foi concrète, et cet homme va laver les plaies de Paul et de Silas, et il va prendre le baptême parce qu'il a décidé d'appartenir à Jésus-Christ. Amen. J'aimerais juste terminer en disant cela. Vous savez, Paul et Silas vont dire, mais voilà, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Et j'aimerais peut-être juste apporter cette précision. Le salut, c'est personnel. Je pense que dans ce contexte-là, il faut vraiment comprendre l'état dans lequel Paul dit cela au geôlier, puisqu'il avait les personnes de sa famille, ils ont eu part aux mêmes circonstances, ils ont eu part à la prédication de l'Évangile, il y a eu là une grâce de Dieu. Mais le salut, c'est personnel.